France Info.
Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pendant une heure, les informer jusqu'à 21h sur France Info, à la radio et à la télé sur le canal 27. À la une des informés ce soir, la droite se cherche toujours. 72 maires de droite et du centre ont donc signé une tribune dans le journal du dimanche. Ce matin, ils soutiennent l'action d'Emmanuel Macron. La réponse ne s'est pas fait attendre de la part des Républicains. Ces signataires ont plutôt, plus ou moins, déjà quitté le parti. Alors, est-ce que c'est grave, docteur ? Dans les informés ce soir, quel rôle joue le Premier ministre, Édouard Philippe ? Qui reste à droite pour tenir la barre ? Brice Hortefeux a rappelé ce matin, nous avons besoin de Nicolas Sarkozy, encore et toujours lui. Au menu des informés, le Royaume-Uni n'a rien à envier aux Républicains, les conservateurs et le Brexit, c'est compliqué. Boris Johnson est-il, sera-t-il l'homme de la situation ? Pour réagir et commenter l'actualité ce soir, les informés autour de la table. Bonsoir Hélène Pilichowski, pardon,
bonsoir.
Éditorialiste politique. Bonsoir David Boëry.
Bonsoir Noé.
Journaliste à France Télévisions. Bonsoir François Hernenwein, rédacteur en chef du journal La Croix.
Bonsoir.
Et bonsoir Marie-Josée Ali, journaliste, musicienne et auteur. Vous sortez bientôt un livre.
Bonsoir.
72 élus de droite et du centre ont donc apporté leur soutien à Emmanuel Macron. C'était ce matin dans le journal du dimanche. La riposte ne s'est pas fait attendre chez les Républicains. On écoute Daniel Fasquelle, député LR du Pas-de-Calais, trésorier national du parti, c'était ce matin sur France Info.
Bon, dans cette liste, il y a quand même beaucoup d'élus qui avaient déjà pris leur distance avec les Républicains. Le trésorier national, d'ailleurs, faut vous dire que la plupart d'entre eux ne payaient plus leurs cotisations depuis très longtemps, donc ils n'ont fait qu'officialiser leur position. Là où je ne suis pas du tout d'accord avec eux, c'est que ça n'est pas en quittant le navire, en quittant les Républicains, que l'on peut le mieux servir notre pays.
Alors François Hernenwein, est-ce que c'est une bonne manière d'éteindre l'incendie, de dire oui, ils étaient déjà en froid avec le parti?
Ouais, c'est une stratégie de communication, minorer le phénomène, mais ça accompagne quand même une fuite régulière et on serait tenté de dire qu'à l'heure qu'il est, c'est une première vague, d'autres suivront. L'approche des élections montrera à quel point le pouvoir d'attraction de La République En Marche est fort pour des maires déjà installés, puisque ils espèrent, en choisissant de soutenir Emmanuel Macron, d'obtenir le soutien de La République En Marche et ne pas avoir de candidature pour qui s'oppose à eux. Et de la même façon, La République En Marche fait son miel de ses soutiens, alors qu'elle n'a pas véritablement d'implantation locale, et elle pourra dire « nous sommes associés à la gestion de municipalités quand même importantes en France à cause du phénomène qui est en train de se produire ».
Marie-Josée Ali, cette tribune, elle est grave ?
Ça a l'air comme ça, oui, elle est grave. Enfin, elle est dans la continuité de ce qui a commencé, de cette espèce de fuite, comme vous disiez, qui a commencé à partir du Parti Républicain. Mais je pense que c'est quand même un couteau à double tranchant pour En Marche. Parce que ça ancre son socle de droite. Et Macron, il a fait sa marche sur l'idée qu'il allait rassembler à la fois la France de droite et celle de gauche. Et là, pour l'instant, il rassemble bien celle de droite.
Ouais. Enfin, ce ne sont que 72 maires sur 36 000 communes.
Enfin, on peut les comprendre en même temps.
Oui, mais c'est 72 de plus, comme on l'a dit, parce que ce n'est pas forcément les premiers de parti. En fait, c'est dans la suite logique de ce qui s'est passé en 2017, de cette recomposition politique qui est toujours en cours. Après, quand on voit effectivement les résultats des européennes, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois qu'on en avait parlé, c'était justement avant les européennes, avec l'un des derniers sondages, où on parlait à l'époque de la gauche éparpillée façon puzzle. Mm-hmm. Bon, bah, dans les résultats des européennes, on a vu que la droite était également éparpillée façon puzzle. Donc après, dans la stratégie de la droite de gouvernement, on a vu que pendant les européennes, ils essayaient de se conforter en essayant de récupérer toute la colère qu'il pouvait y avoir contre le gouvernement. Les résultats montrent que les gens ont préféré, dans ce cadre-là, voter pour le Rassemblement national que pour la droite. Donc oui, il y a un problème d'hommes, mais je pense qu'il y a surtout un problème d'idées, qui remonte pas à, là, les élections européennes, qui remonte à beaucoup plus longtemps. Ça a même commencé dès 2012.
On va y revenir, évidemment, sur les idées à droite. Hélène Pilichowski, cette tribune... 72 maires de plus ou ce ne sont que 72 maires sur 36 000
C'est important parce que 72 c'est un nombre qui est quand même respectable. Il y en aurait eu 4 ou 5, effectivement on aurait dit bon bah ça continue mais gentiment. Tandis que là...
Et puis c'est peut-être pas fini.
Là l'hémorragie oui, voilà, est douloureuse et puis apparemment il y a déjà d'autres qui s'annonceraient d'après ce qu'on a entendu.
Il ne faut pas oublier que derrière les municipales il y a aussi les sénatoriales.
Mais les Républicains sont désemparés, totalement désemparés et comme vous l'avez dit très justement il y a 2 minutes, effectivement il y a le fait de ne pas avoir éventuellement de listes contre eux dans leur commune. C'est donc une belle prise, on peut appeler ça comme ça, une belle prise pour Emmanuel Macron qui a besoin d'ancrages locaux énormément parce qu'on lui reproche souvent en disant bah oui, c'est bien gentil, il y a quelques politiques à Paris mais pas grand monde, vous n'avez pas d'implantation dans le pays, vous êtes loin etc. Bon, c'est une belle prise. Les origines, c'est je crois que Emmanuel Macron a fait quelque chose qui lui a été assez profitable, c'est ce grand débat où il a réuni des maires dans toutes les régions de France, à qui il a parlé, auprès de qui il a fait jouer son grand charme, etc.
Et ça marche. Le résultat, c'est ça.
C'est ça. Mais David. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que c'est pas sans risque pour lui. Parce que, effectivement, si.
C'est Marie-José.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si à gauche, tout d'un coup, on se dit, mais attention, on est dans un parti de droite, il peut avoir le phénomène des frondeurs qu'a connu François Hollande et qui peut être éventuellement dangereux pour lui, mais pas pour l'instant. Parce que je crois qu'il y a une envie de réussite dans le pays en ce moment qui est importante.
David Boué.
D'ailleurs, ce qui est en fait assez paradoxal, c'est que ce mouvement qui est de quitter le Parti des Républicains pour rejoindre La République En Marche, pour le coup, est très vieux monde.
Enfin là, ils ne rejoignent pas vraiment La République En Marche.
Oui, mais hein. Enfin, ils le soutiennent précisément, comme on le disait, pour éviter de se retrouver face à un candidat lors des prochaines municipales. Donc c'est quand même une réaction qui est très très vieux monde. Hein. C'est une façon
mais comment
de
voulez-vous qu'il s'appuie
conserver...
sur un parti qui n'a c'est pas de chef façon... et qui n'a pas d'idée
Oui, mais sauf que ça peut être pris comme surtout une façon de conserver son portefeuille et son pouvoir.
On va y revenir sur le Nouveau Monde dans un instant. Il est 20h10 sur France Info. Le rappel de l'info, Thomas Bénèche.
L'épouse du pêcheur disparu vendredi au large des Sables d'Olonne en Vendée prend la parole ce soir. Evelyne Guibert explique que son mari connaissait parfaitement son métier et n'était pas un casse-cou. Le corps de son époux n'a pas été retrouvé. 3 marins sauveteurs de la SNSM sont morts en voulant lui porter secours. Ce pêcheur était en difficulté alors que la tempête Miguel sévissait. La mairie de Toulouse va porter plainte après la profanation la nuit dernière d'une centaine de tombes. Cela s'est déroulé dans le plus ancien cimetière de la ville, celui de Terre-Cabade, quartier Jolimont. L'une des tombes a été saccagée. La police a effectué 2 premières constatations et relevés afin d'identifier un ou plusieurs suspects. La Marseillaise sifflée hier avant le coup d'envoi de Turquie-France, match comptant pour les qualifications à l'Euro 2020 de football. Emmanuel Macron qualifie cet événement d'inacceptable. Il l'a fait savoir au président de la Fédération française de football. Lui seul peut saisir l'UEFA ou son homologue turc pour demander un rappel à l'ordre. En tennis, Rafael Nadal au sommet à Roland-Garros. Il remporte pour la 12e fois le tournoi. Il s'impose cet après-midi comme l'an dernier face à l'Autrichien Dominic Thiem, une victoire en 4-7. Enfin, l'affiche de la finale de top 14 de rugby est désormais complète. Clermont affrontera Toulouse samedi prochain au Stade de France. Les Clermontois ont battu aujourd'hui en demi-finale Lyon 33-13.
France Info, les informés, Noé Da Silva.
Retour des informés jusqu'à 21h avec vous, Hélène Pilichowski, David Boëry, François Hernenwein et Marie-José Ali. Alors Gilles Legendre, le patron du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, estime que les temps ont changé. On parlait du Nouveau Monde il y a quelques instants. Les temps ont changé et il n'y a plus besoin d'une majorité écrasante. On l'écoute.
Le temps n'est plus aux majorités écrasantes et dominatrices. L'époque plaide pour des coalition.
Oula.
Et je le dis d'une façon générale. Et c'est un avis, je m'empresse de le dire, personnel. L'époque est une époque qui se construit sur du dialogue, sur des compromis, sur des échanges.
Hélène Pilichowski, vous êtes d'accord avec ça ?
C'est-à-dire que ce n'est pas dans la culture française ni conforme à nos institutions, effectivement, où il y avait cette alternance avec deux grands partis de gouvernement assez forts et qui s'échangeaient.
Il dit ça, mais La République En Marche est quand même un parti.
C'est pas grand-chose pour l'instant. On l'a dit, il n'y a pas beaucoup d'élus, c'est un parti naissant pour l'instant. C'est pas encore un parti très constructé et très puissant sur le territoire français, non. Mais c'est vrai, les coalitions, ça veut dire éventuellement que ceux des Républicains qui disent vouloir soutenir Emmanuel Macron, ils peuvent rester éventuellement, ils ne sont pas obligés, ils vont quitter le parti, mais il veut dire qu'il peut y avoir des tendances, comme en Allemagne par exemple, où on forme des majorités à la suite d'élections, où tout le monde peut être représenté dans différentes formations politiques et s'allier pour gouverner, c'est un peu l'esprit,
c'est surtout ça qu'il faut comprendre, parce que effectivement c'est une façon de dire à l'Assemblée nationale, notamment La République En Marche est déjà une majorité écrasante et très très importante, et que donc on n'a pas forcément besoin de façon très pratique de renforcer le groupe de La République En Marche, mais par contre de pouvoir éventuellement faire des alliances avec d'autres partis venant de la droite lui semble plus intéressant.
Astucieux alors.
Mais
c'est une façon de dire qu'il y a toujours de la pluralité.
J'ai cru comprendre que l'appel du pied de Gilles Lejeune ne concernait pas que la droite.
Bien sûr, c'est des deux côtés.
Il appelait des gens de gauche, des écologistes, etc.
On parle pas beaucoup des gens de gauche en ce moment.
Voilà, à venir rejoindre.
Il y en a plus.
Non, mais encore. André Méthode, la priorité maintenant.
C'est ça, c'est dangereux.
La priorité, c'est maintenant de coaguler les gens de droite qui sont prêts à venir soutenir La République En Marche. Mais la phase suivante, dans la logique de coalition évoquée là, c'est de rassembler le plus largement possible. Alors sur le plan tactique, c'est impeccable. Sauf qu'en termes de clarté politique, l'exercice va devenir compliqué.
Pourquoi ?
Si on regarde le paysage politique tel qu'il est aujourd'hui, quel segment idéologique, politique, occupe La République En Marche ? En agglomérant, comme ça a été dit tout à l'heure, des élus de droite, elle accentue encore ce positionnement assez à droite dans le paysage politique. Et ça, ça rendra plus compliqué, je reprends l'expression, les deux jambes de la majorité, la deuxième jambe, elle claudique, là, et il faudra... L'exercice va être très compliqué.
C'est assez malin, quand même, au départ, de dire, voilà, vous gardez votre étiquette, hein, moi, je veux pas que vous changiez d'étiquette, mais venez à moi, on va travailler ensemble. Bon, alors, sur le papier, ça a l'air de fonctionner. Mais alors, dans la réalité, au moment M, il se trouve que quand on fait comme ça un appel du pied aux Républicains, ou quand les Républicains viennent se jeter dans vos bras, ça va être très difficile de récupérer des électeurs de gauche. Donc, pour moi, je pense qu'on est dans un moment de vérité par rapport au macronisme, et que les élections municipales et derrière les sénatoriales, parce qu'on oublie qu'il y a quand même l'objectif, c'est quand même de changer la majorité du Sénat, qui est pour l'instant la couleur du Sénat. Et je pense que ce sera très intéressant d'analyser la façon dont les réactions se font autour des municipales.
Mais c'est aussi une question de timing et d'opportunité. Enfin, je veux dire, parce que là, pour l'instant, très concrètement, depuis deux semaines, c'est le parti Les Républicains qui est totalement en crise et qui est en décrépitude totale. Donc voilà, après, c'est une question de timing.
Ça fait partie de la stratégie avant même les élections pour Emmanuel Macron et pour le Parti de la République En Marche.
Rappelez-vous, lors des dernières municipales, c'est précisément... alors, ça ne s'appelait pas encore d'ailleurs Les Républicains, c'était encore l'UMP, qui avait remporté c'était une vraie vague, alors je ne sais plus comment on l'appelait, bleue à l'époque.
Était très bleue.
Une vague bleue énormément de villes. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est là qu'il faut aller chercher des élus.
Qui est en train de se construire... C'est pas d'une clarté totale, parce que quand on ira devant les électeurs dans des alliances droite, La République En Marche, on ne sort pas de l'ambiguïté, d'ailleurs. Mais... c'est une méthode de gouvernement.
Quand Alain Juppé parlait de l'omelette avec les fameux deux bouts de l'omelette, c'est-à-dire l'extrême gauche et l'extrême droite, il disait qu'il y avait souvent une communauté de pensée, quand même, entre les gens qui faisaient le corps côté gauche et le corps principale à droite, hormis les deux extrémités. Et c'est ça qui est en train de se passer. Et ça va avec l'ancien monde. La fracture délimitée entre droite et gauche, ça semble périmée.
Est-ce que vous avez vu vous avez entendu.
Donc si on se raccroche pour dire attention, c'est bien, mais c'est dangereux. Mais c'est
trop Julien Aubert, justement, on parle des deux jambes et on parle de ces coalitions. Le secrétaire général adjoint des Républicains, Julien Aubert, plaide pour une coalition de deux partis frères qui correspondrait un peu à ce qu'étaient l'UDF et le RPR, mais au sein d'une confédération. Est-ce que ça peut fonctionner
pour faire renaître...
Marie-Josée Ali.
C'est absolument pas dans la culture française. Je veux dire, c'est à l'intérieur même des partis, il y a tellement de tendances que...
L'UMP, justement, est en train de mourir de cette fameuse coalition.
De ça. Et pareil, la gauche de 81 est un peu morte de ça aussi. Donc, on est en France, et en France, ça fonctionne pas comme ça. C'est pas culturellement, ça ne marche pas comme ça.
Alors, en même temps, à droite, il y a eu des coalitions entre le centre droit et le parti de gouvernement de droite.
En fait, ça n'a jamais été... Moi, je pense que le flou actuel bénéficie à Macron, c'est l'homme du flou.
Ce que j'essayais de dire à l'instant, cette ambiguïté ne conduit pas mécaniquement à un propos clair, des choix nettement exprimés. Quand on construit des trucs tendanciellement brinque-ballant,
On fait venir tout le monde comme ça.
On fait venir tout le monde et tout le monde est apparemment d'accord et au fond personne ne l'est. L'ambiguïté d'En Marche, ni droite ni gauche, on l'a vu dans les politiques.
Non, c'est de droite et de gauche.
Le résultat était qu'Emmanuel Macron a été taxé de président des riches, qu'on a considéré que sa politique était nettement marquée à droite et il avait un effort à faire pour rééquilibrer sa politique. Or, actuellement, il poursuit dans le sillon qu'il a commencé à creuser depuis son élection.
On pourrait aussi dire que c'est un pari sur, justement, apprendre dans la politique française à faire des compromis qui ne soient pas forcément partisans. Pourquoi pas? Mais j'ajoute en plus qu'il y a quand même aussi un autre pari, parce qu'il faut peut-être attendre avant de faire des plans sur la comète. Le pari du côté des Républicains, de tous ces maires républicains, c'est de dire je préfère prendre tout de suite mes distances pour rejoindre d'une façon ou d'une autre le camp de la majorité. Encore faut-il que les électeurs de ces maires-là suivent le mouvement. Parce que ça, il n'y a aucune certitude sur le fait que ces maires vont effectivement dans un an être réélus en ayant rejoint la majorité.
La proximité de la fonction, c'est vraiment un pari à faire avec justement les maires. Parce que la proximité de la fonction avec l'électorat est tellement, il y a tellement d'intimité dans la relation qu'effectivement ça peut marcher. Ça marche beaucoup moins bien avec un député ou avec même un président de conseil général.
On ne fait plus d'élections.
Non, c'est pas gagné.
La suite
c'est
des
pas
informés, c'est dans un bon instant. Restez sages. L'info à 20h20, c'est avec Thomas Bénèche.
La direction de l'hôpital parisien Saint-Antoine s'organise pour assurer la continuité des soins aux urgences pour les toutes prochaines heures. La nuit dernière, comme déjà observé à l'hôpital Lariboisière, 13 infirmiers et aides-soignants sur les 19 prévus au tableau de service se sont mis en arrêt maladie. Un moyen de protester contre le manque de moyens aux urgences. Un chauffeur routier espagnol placé aujourd'hui en détention provisoire est mis en examen mercredi. Il circule sur l'autoroute A39 en Saône-et-Loire et les douanes retrouvent dans son camion près de 400 kilos de méthamphétamine. Le suspect explique qu'il ne savait pas qu'il transportait cette drogue de synthèse. La Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault estime à 40% la baisse de chiffre d'affaires hier pour les commerçants de Montpellier. La ville avait été choisie par les Gilets jaunes pour une manifestation d'envergure nationale. Des incidents ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. 19 personnes interpellées à l'issue. Le mondial féminin de football avec la victoire de l'Angleterre ce soir sur l'Écosse 2-1. Succès également aujourd'hui du Brésil sur la Jamaïque 3-0 et de l'Italie sur l'Australie 2-1.
France Info, les informés, Noé Da Silva.
Merci d'être avec nous. Les informés continuent jusqu'à 21h avec autour de la table Hélène Pilichowski, David Boëry, François Ernenwein et Marie-Josée Ali. Après cette tribune publiée ce matin dans le journal du dimanche en faveur de l'action d'Emmanuel Macron, il y a toujours l'interrogation autour du rôle que souhaite jouer Valérie Pécresse à droite. Elle a quitté le parti Les Républicains. La présidente de la région Île-de-France était ce matin chez nos confrères de LCI et RTL. Écoutez sa réponse à la question « Pourriez-vous devenir Premier ministre d'Emmanuel Macron ?»
Non, merci.
C'est définitif.
Non, merci. Aujourd'hui, j'ai une région à gérer, j'ai un mandat, et j'irai jusqu'au bout de ce mandat. Les électeurs de ma région m'ont fait confiance pour rompre avec 17 ans d'immobilisme socialiste. Aujourd'hui, je fais la révolution des transports, je fais la révolution pour l'emploi, je leur permets d'apprendre les langues, je leur permets d'apprendre le français pour ceux qui ne le parlent pas. Je lutte, je fais la transition écologique à marche forcée. Jamais on a eu une ambition écologique aussi grande pour une région.
C'est un programme présidentiel, Hélène Pilchowski.
Non, mais c'est vrai que si elle se mettait en disponibilité de sa région, ça serait fichu pour elle. Pour l'instant, elle a raison.
Elle a raison à rester.
Qu'elle n'ait pas une idée en tête et qu'elle se positionne pas pour un avenir, mais qui sera pas celui de demain matin ni même dans 6 mois. Qu'elle se mette un peu, voilà, en réserve de la République, on va dire. Mais je pense qu'elle a raison. Mais ce qu'elle voulait en fait.
Est-ce que vous y voyez plus clair sur ce pourquoi elle a quitté le parti Les Républicains?
Faut pas penser que tous les politiques ont un intérêt immédiat à prendre une position. Elle a quitté parce qu'elle est en conflit depuis longtemps avec Gérard Larcher. Je pense que tous les gens qui suivent la politique ne l'ignorent pas. Et qu'en plus, elle voulait... Oui, et puis Gérard Larcher maintenant, puisque c'est lui qui a repris un peu les manettes avec ses propositions de grands débats, lui aussi, de grandes conventions. Et qu'en fait, elle a, je crois savoir qu'elle aurait demandé d'être à la tête du parti, etc. Et que ça lui a été refusé. Donc elle a protesté immédiatement. Avec cette nuance, laissez-moi finir. Messieurs, quand vous parlez, on ne vous interrompt pas. Quand les dames parlent, il ne faut pas les interrompre non plus, même si ça dure plus de 2 minutes. Voilà.
Mais c'est ça, en fait.
C'est pas parce qu'on débat dans le débat.
Sexiste. On va pas faire un débat dans le débat.
Mais ce qui est dommage, donc le parti, si elle voulait le parti, il fallait qu'elle se présente. Quand le parti s'est trouvé et que c'était qu'il y a eu l'élection de Laurent Wauquiez, elle n'a pas été candidate à ce moment-là. Donc trop tard.
David Boeri.
Il faut peut-être juste quand même rappeler un point, c'est qu'elle était effectivement toujours républicain, mais quand même d'assez loin et plus vraiment très présente depuis son élection en Île-de-France. Donc, elle avait quand même pris d'ores et déjà cette distance. A-t-elle joué un rôle dans la campagne? A-t-elle joué un rôle dans la campagne des européennes pour le Parti républicain? A-t-elle joué un rôle pendant la campagne? Aucun.
Aucun. François Hermenwein.
Non, mais moi, ce qui me frappe, quand on écoute lors de l'annonce de sa démission, les raisons que donnait Valérie Pécresse de son départ, chacune était argumentée. Intellectuellement, il n'y avait rien à dire. Elle a poussé un certain nombre d'idées à l'intérieur des Républicains, elle n'a jamais été entendue. Et au fond, elle incarne cette partie de la droite moderniste qui ne se retrouve pas forcément dans le macronisme triomphant. Et cet espace est légitime dans le débat public. Je pense que la droite parlementaire a une longue histoire. Elle renaîtra de ses cendres actuelles et elle proposera des projets tendanciellement conservateurs, mais adaptés au temps présent. La critique de Laurent Wauquiez à travers la démarche de Valérie Pécresse est impitoyable. Et on était nombreux déjà à dire, quand Laurent Wauquiez est arrivé chez les Républicains, avec sa ligne intransigeante, qu'il n'irait pas loin. On l'a écrit déjà. La surprise ne vient pas de la crise actuelle.
Sur le rôle de Valérie Pécresse aujourd'hui.
Est-ce qu'on peut imaginer qu'un homme ou une femme politique puisse aujourd'hui faire de la politique sans forcément avoir une stratégie long terme ou court terme?
Il vaut mieux en avoir une.
Oui, non, mais je veux dire, est-ce que sans arrière-pensée, alors, pour être
quand on arrive
plus
à ce
négatif,
niveau-là, quand même.
À ce niveau-là, oui, mais je pense qu'il y a quelque chose de sincère. C'est-à-dire que, bon, c'est invivable, ça pue, c'est pas mon endroit, je m'y retrouve pas, je suis coincée, là, je peux pas, et j'ai des choses à faire. Elle a expliqué, elle a un programme. Ouais. Et puis se mettre, alors, ça, c'est effectivement la stratégie, se mettre en réserve de tout cette espèce de chaos, parce que ça va pas sentir bon là dans les semaines et les mois qui viennent à l'intérieur du mouvement républicain, se mettre un peu en réserve à l'extérieur pour arriver au bon moment.
Mais donc,
David Boeri.
Mais non, mais pour résumer, nous sommes tous d'accord. Elle aurait même pu en fait partir des Républicains depuis déjà longtemps. Parce que précisément, ces approches différentes et stratégiques par rapport à la ligne Wauquiez existent depuis toujours.
Est-ce que vous avez lu ce matin l'interview de Brice Hortefeux qui dit c'est Christian Jacob qui doit reprendre le parti Les Républicains parce que c'est lui qui a les expériences du terrain, du Parlement et du gouvernement. Hélène Pilichowski.
Je ne sais pas s'il y aura l'assentiment des fortes têtes des Républicains. Quand même, Christian Jacob est assez marqué. Lui aussi, c'est un Républicain, mais assez dur quand même. Hein, assez dur, assez dans sa lutte contre, dans sa critique du pouvoir, enfin, qui est très emporté, tout ça. Il peut avoir une partie de la base, effectivement. Mais en ce qui concerne le comité directeur actuel, enfin, les grandes têtes des Républicains, je ne suis pas sûre qu'il fasse consensus. Hein.
20h et presque 28 minutes. Merci d'écouter Les Informés. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h, mais tout de suite, l'info.
France Info Trafic, avec la carte carburant Carrefour pour les flottes de véhicules professionnels. Plus d'infos sur carte-carburant.carrefour.fr.
Marion Barjaki pour le trafic. Il y a deux accidents ce soir près de Saint-Étienne.
Oui, sur la Nationale 88, dans les deux sens, vers Lyon et vers le Puy, au moins trois véhicules sont impliqués. Soyez prudents. Autre accident toujours sur cette Nationale 88, mais en Haute-Loire, à hauteur de Saint-Féréol-d'Aurore, vers Saint-Étienne. Là aussi, il faut lever le pied, il y a quelques ralentissements. Prudence sur l'A43 à Bron, un accident a eu lieu entre un scooter et deux voitures quand vous roulez vers le sud. Prudence également sur l'A50 de Toulon vers Marseille. Deux voitures se sont percutées à hauteur de la Seine-sur-Mer sur la bretelle de sortie.
Le temps de notre lundi de Pentecôte, Jean-Michel Golinski.
Maintien demain et d'ailleurs pour une bonne partie de la semaine d'un régime d'averses et d'orages dans des températures qui, à force de baisser, vont finir par passer partout en dessous des moyennes. Si demain les villes méditerranéennes conservent un bon 27 à 30 degrés, sur les autres régions, on va déjà perdre 2 degrés en moyenne par rapport à aujourd'hui et même jusqu'à 7 sur l'Aquitaine et le Midi-Pyrénées. Sous un ciel qui aura meilleur aspect qu'aujourd'hui sur le Languedoc, la Provence et le Roussillon, ceci grâce à un Mistral et à une tramontane vers 80 km à l'heure. Mais sur le reste du pays, les passages d'averses seront fréquents et sur le flanc est, les orages nombreux. Cette activité orageuse donnera par cumul d'importantes quantités de précipitations à l'est du Rhône.
Très bonne soirée à l'écoute de France Info, il est 20h30.
France Info. De quoi ouvrez l'info.
L'info, Emmanuel Langlois.
Une centaine de tombes dégradées la nuit dernière dans le cimetière de Terre-Cabade à Toulouse. C'est le plus ancien de la ville. Les dégâts sont importants. Des crucifix, des jardinières et des fleurs cassées, renversées. Une tombe a même été saccagée. C'est le gardien du cimetière qui a donné l'alerte vers 7h du matin à son arrivée. Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudingue, s'est rendu sur place. Il n'a pas constaté de revendication particulière. Il l'a dit tout à l'heure sur France Info.
C'est quelque chose qui est assez énigmatique, c'est-à-dire il n'y a pas de revendication, il n'y a pas de slogan, il n'y a pas de signe symbolique ou de signature ou d'inscription, il n'y a rien qui permettrait d'identifier qui que ce soit ou de donner une signification à ces forfaits. Les enquêteurs ont quand même remarqué que de manière assez systématique, les crucifix avaient été enlevés et brisés. Alors, il faut voir ce que ça signifie. Peut-être que ça ne signifie rien parce qu'on est sur le cimetière le plus ancien de Toulouse, donc les tombes sont quasi exclusivement catholiques. Il n'y a que quelques tombes musulmanes et juives, mais qui n'ont pas été concernées par ce qui s'est passé.
Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudingue. Près de 400 kilos d'amphétamine, une drogue de synthèse saisie par la douane dans un camion qui circulait en Saône-et-Loire. Le chauffeur, un Espagnol, a été incarcéré. Cette seule prise atteint presque le double de la totalité des saisies de l'an dernier, soit 237 kilos au total. Valérie Pécresse prend ses distances avec l'appel des 72 maires élus locaux de droite et du centre en soutien à Emmanuel Macron. Près d'une semaine après son départ des Républicains, la présidente de la région Île-de-France affirme qu'elle ne partage pas du tout la tribune publiée ce matin dans le journal du dimanche, mais elle dit y voir le signe de l'urgence de construire une droite moderne. Marée humaine à Hong Kong, c'est la manifestation la plus importante depuis 15 ans au moins dans l'ancienne colonie britannique. Jusqu'à 1 million de personnes, selon les organisateurs, 4 fois moins d'après la police, ont défilé pour protester contre un projet du gouvernement local d'autoriser des extraditions vers la Chine continentale. Des heurts ont éclaté avec la police. American Airlines annule par précaution jusqu'au 3 septembre tous ses vols prévus initialement sur Boeing 737 MAX, une interdiction qui ne devait courir que jusqu'au 19 août au départ. L'avion est cloué au sol dans le monde entier après deux crashs rapprochés de quelques mois et qui ont fait au total 346 morts. Rafael Nadal entre donc dans l'histoire. L'Espagnol s'offre un 12e sacre à Roland-Garros, c'est du jamais vu. Il a battu l'Autrichien Dominic Thiem, numéro 4 mondial, déjà finaliste l'an dernier en 4-7, 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 et 3 heures de match au total porte d'Auteuil. Nadal qui compte désormais 18 couronnes en grand chelem à son tableau de chasse. Et puis chez les dames, le duo franco-hongrois Kristina Mladenovic-Timea Babos a remporté le tournoi du double face à un binôme chinois, Roland-Garros toujours. Emmanuel Macron juge inacceptable les sifflets d'une partie des spectateurs qui ont accompagné la Marseillaise hier avant le match Turquie-France, match qualificatif pour l'Euro 2020.
France Info, les informés, Noé Da Silva.
Merci d'être avec nous et bienvenue si vous nous rejoignez, les informés sur France Info jusqu'à 21h à la radio et à la télé sur le canal 27. Avec nous toujours autour de la table, Hélène Pilichowski, éditorialiste politique, David Boéry, journaliste à France Télévisions, François Ehrenwein, rédacteur en chef au journal La Croix et Marie-Josée Ali, journaliste et chanteuse. Nous évoquons la situation de la droite ce soir. Nous avons entendu Valérie Pécresse qui répondait à une question sur son rôle à jouer peut-être au gouvernement. Elle ne souhaite pas être Premier ministre. Parlons du Premier ministre, Édouard Philippe, Hélène Pilichowski.
Justement, la place n'est pas à prendre pour l'instant, puisqu'il a été confirmé.
Il doit s'exprimer cette semaine avec son discours de politique générale. Il est très attendu. Vous l'attendez sur quoi ?
Sur ce que va être ce fameux acte 2 du quinquennat, tel qu'il est annoncé, en fait. On l'attend sur une chose, c'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir dans les projets qui seront annoncés, parce que c'est ça, hein, il va expliquer les réformes, pourquoi, comment et le calendrier, est-ce qu'il va tenir compte, enfin, est-ce que l'exécutif, parce qu'il ne faut pas oublier Emmanuel Macron quand même, est-ce que l'exécutif va tenir compte des revendications des Gilets jaunes et du phénomène Gilets jaunes, ou est-ce que l'exécutif va continuer droit dans ses bottes le programme qui avait été annoncé et prévu par Emmanuel Macron. C'est pas facile. Oui, ce qui peut simplement arrondir un peu les angles pour tenir compte de la crise sociale française.
François Ehrenwein.
Il arrondira de manière rhétorique, au moins. Mais il est dans une situation formidable en ce moment. Moi, je serai à la place d'Édouard Philippe, je boirai du petit lait. Il a été un des premiers à franchir le pas. Il est suivi par beaucoup d'autres et de plus en plus, semble-t-il, à rejoindre Emmanuel Macron. Donc tout va bien pour lui. En plus, factuellement, il a assuré très correctement pendant l'affaire Benalla et pendant la crise des Gilets jaunes, au moment où Emmanuel Macron chancelait un petit peu. Mais on en vient à un point qu'on a déjà débattu tout à l'heure. En ce moment, dans le paysage, à travers la figure d'Édouard Philippe, le macronisme incarne la droite libérale. Et a trahi ou n'a en tous les cas pas tenu sa promesse, ni de droite ni de gauche. Et l'ensemble du paysage, quand vous regardez un paysage, vous êtes capable de juger si c'est de la mer ou de la montagne. Là, c'est exactement la même chose. Si vous regardez la politique conduite, vous êtes capable de l'évaluer. Et les choses auraient beaucoup moins
bien... Vous évaluez que c'est une politique de droite.
Je crois qu'on peut le dire, oui. Et les choses auraient beaucoup moins bien tourné pour lui si Emmanuel Macron avait fait le choix stratégique de rééquilibrer sa politique. Mais au moment où on est avec l'appel du pied lancé au maire de droite,
la propagation de
le temps politique pour Édouard Philippe. Mais c'est pour ça que je parlais de rhétorique tout à l'heure.
Que peut-il dire
le temps politique pour Édouard Philippe maintenant, mercredi, c'est dans son discours de politique générale d'opérer un virage à gauche. Or, ce qu'on entend beaucoup chez les macronistes, c'est que bon, on a déjà mis 17 milliards sur la table, c'est bon. Donc on n'attend pas tellement qu'il aille dans cette direction-là, mais en fait ce serait la seule chose à faire maintenant. Là, ce serait un gagnant-gagnant total, parce que vous avez raison là-dessus. Il a fait grand chelem. Il est l'homme de la situation, et peut-être que demain c'est lui qui va être l'homme des Républicains, si les Républicains existent encore. Mais là, s'il n'opère pas ce virage à gauche de façon claire, s'il n'y a pas des décisions, des propositions qui sont faites qui contentent cette élection qui a été dans la rue pendant des semaines et des semaines. Alors je pense que l'affaire des Gilets jaunes va repartir comme en 40.
Est-ce qu'il y a des choses sur la loi sur l'économie circulaire avec la réduction des déchets, les retraites, la décentralisation, la PMA ?
il n'y a rien de réellement nouveau. En réalité, ce que tout le monde va guetter mercredi, c'est le en même temps. C'est-à-dire, il y a tout ce qu'on sait, et puis le en même temps, sous forme d'ouverture plus ou moins claire.
En même temps à gauche?
Oui. Oui. De façon.
La question est toujours dans ce genre de débat, le dosage.
Bien sûr.
Et une un kilo, c'est pas la même chose.
Et une façon de répondre, d'ailleurs, sera d'en savoir un petit peu plus sur le calendrier des réformes. Oui, parce que là, on voit que tout se bouscule et que donc va falloir
Les deux gros dossiers sont l'assurance chômage et les retraites.
Oui.
Sur ces deux sujets, on ne voit pas d'indice dans les projets tels qu'ils ont été décrits d'une orientation un peu différente de ce qui a été conduit depuis 2 ans.
Sur les retraites, c'est encore possible.
Bon. Il y aura quelques infléchissements, probablement. Mais si vous aviez écouté Nadine Morano, qui était l'invitée ce matin d'une grande émission politique d'une heure sur Europe 1 et CNews, je crois, c'est ça, ensemble.
Exactement.
Elle vous expliquait la différence et vous expliquait pourquoi Macron n'est pas vraiment de droite, parce qu'elle, elle sait ce que c'est qu'être de droite, et elle vous expliquait. Mais oui, voilà. Et non, mais elle a une certaine fougue, on la connaît. Mais, par exemple, sur la dépense publique, qui était un des grands problèmes français, si vous faites vraiment un changement radical, c'est-à-dire un petit virage à gauche, c'est-à-dire en lâchant un peu plus d'argent, c'est ça quand même, il faut le savoir, c'est ça quand même, c'est-à-dire surtout pas de restrictions, surtout pas de coupes dans certaines, voilà, dans l'assurance chômage, pas de coupes, pas de retour sur la retraite, etc. Et ça, ce que réclame la gauche, c'est pas compatible avec la tenue des dépenses publiques en France.
Sauf que précisément, si je peux me permettre, précisément, on peut éventuellement convenir que depuis son élection, Emmanuel Macron mène plutôt une politique économique libérale et donc logiquement classée à droite. Concernant les dépenses publiques, il n'a rien fait de plus dans la restriction et la fermeture des budgets. Je donne juste un détail technique. Quand on dit que pour la première fois en 2019, alors c'était avant d'ailleurs toutes les mesures qui ont été annoncées gilets jaunes, donc depuis l'équation est plus exactement la même, où on a dit que pour la première fois on faisait baisser les dépenses de l'État, en réalité on ne les fait baisser que de ce qu'elles auraient dû augmenter si on n'avait rien fait. Autrement dit, en valeur absolue, ça continue de progresser. Donc de ce point de vue-là, on ne peut pas parler d'une politique ultra-libérale.
On est absolument d'accord sur cet aspect-là des choses. Mais si l'objectif, c'est de réformer, de réduire les dépenses publiques, il y a 1000 manières de réduire les dépenses publiques.
Ça n'a toujours pas été fait.
Est-ce que, quand on réduit les dépenses publiques, on a le souci de l'équité, que l'effort soit partagé par l'ensemble des catégories sociales, par l'ensemble des territoires? Or, on n'a pas eu pendant 2 ans d'indicateur que ce souci était l'aiguillon de la politique du gouvernement. La preuve, par l'absurde, le mouvement des Gilets jaunes qui a obéré la présidence Macron ces 6 derniers mois.
Allez, vous êtes indisciplinés, on fait une pause et on change de sujet. Comme ça, tout le monde sera d'accord. 20h40, l'info Thomas Benesch.
Un automobiliste en fuite ce soir à Lorient. On le soupçonne d'avoir fauché à la sortie d'un rond-point 2 enfants. L'un est mort, l'autre gravement blessé en urgence absolue. Le drame s'est produit alors que le chauffard était poursuivi par les gendarmes. Christophe Béchu, le maire d'Angers, ex Les Républicains, juge sur France Info que la semaine prochaine, plus de 100 élus auront apporté leur soutien à Emmanuel Macron. Hier soir, ils sont 72 élus locaux de la droite et du centre à l'avoir fait dans une tribune publiée sur le site internet du journal du dimanche. Christophe Béchu fait partie des signataires de ce texte où les élus souhaitent la réussite de la France et du gouvernement. Première édition ce dimanche à Saint-Denis en région parisienne de la Gay Pride des banlieues ou Marche des Fiertés. 1 millier de personnes y ont participé. L'objectif était de dénoncer l'homophobie dans les quartiers et la stigmatisation des habitants. En tennis, à Roland-Garros, Raphaël Nadal s'est imposé ce dimanche. Il a remporté son 12e titre sur la terre battue parisienne. Comme l'an dernier, il a battu l'Autrichien Dominic Thiem. Succès en 4-7. Enfin, Clermont rejoint Toulouse en finale du top 14 de rugby. Les Clermontois ont battu ce dimanche en demi Lyon, le score 33-13.
France Info. Les informés, Noé Da Silva.
La suite des informés avec toujours Hélène Pilichowski, David Boeri, François Ernenwein et Marie-Josée Ali. Thomas Benech vient d'en parler dans le rappel de l'info. Il y avait une première aujourd'hui en banlieue, une marche des fiertés. Plus d'un millier de personnes. On écoute Lies Alouane, il est délégué Île-de-France de l'association Stop Homophobie.
Il ne doit pas y avoir de zone de non-droit pour les LGBT. On doit être partout chez nous et c'est les homophobes, les lesbophobes et les transphobes. C'est à eux de se cacher, de ne pas être fiers de ce qu'ils sont. À Paris, si vous voulez, on peut se montrer, on peut se visibiliser, mais on fait quand même attention parce qu'on sait qu'on peut se faire agresser. Par contre, en banlieue, on est vraiment en arrière dans le temps. C'est tabou, c'est interdit, on ne se montre pas. Sinon, on vit un harcèlement quotidien comme j'ai pu vivre.
Marie-Josée Ali, ça vous choque qu'on soit en 2019 et qu'on fasse une première marche des fiertés en banlieue ?
Ce qui me choque quand même, c'est qu'on a légiféré. Le mariage gay est en France, c'est une réalité, voilà. Et que on
mariage
a
pour
le,
tous, le mariage pour tous, 2013, il y a eu un pic d'ailleurs de
l'agression
homophobe.
Et on a le sentiment que toutes les conquêtes qu'on a sur le plan politique, législatif, il ne faut pas se penser que ça y est, l'affaire est bouclée et que tout va bien. Il faut continuer à se battre pour les mêmes choses. C'est le cas pour l'avortement, c'est le cas pour... Il n'y a qu'à voir les manifestations. C'est le cas pour le racisme.
Un combat quotidien.
C'est un combat quotidien. Et c'est ça qui me choque. C'est-à-dire que me choque. Non, ça m'interpelle. Et je me dis qu'il faut qu'on reste en vigilance. Nous sommes des sociétés mouvantes. Nous sommes des sociétés contrariées par la vie qu'on mène aujourd'hui et tout est bouc émissaire. Tout est bouc émissaire à nos colères quotidiennes et je dis non parce que c'est comme ça, individuellement ça marche comme ça. Et donc il faut empêcher que ces colères se focalisent sur des choses qui sont juste la différence. Juste la différence. Moi, je suis pas comme vous. Vous êtes pas comme moi. J'ai pas la même vie sexuelle que vous. Et il faut absolument continuer à se battre et faire entendre cette parole. C'est pour ça que cette manifestation, je l'apprécie, je la soutiens totalement.
David Boeri, vous aussi.
Oui, bien sûr, parce que on le dit, c'est une liberté, donc c'est un droit fondamental qu'il faut absolument d'une part préserver et se défendre. La seule petite chose, c'est que pour que ce genre d'initiative puisse réellement fonctionner et marcher, c'est qu'il faut vraiment que tout le monde y participe et que ça rassemble surtout tout le monde pour éviter un écueil qui serait de tomber dans une défense qui soit trop, je sais pas comment dire, catégorielle, identitaire, qui ne rassemble que les homosexuels ou transsexuels pour défendre cette liberté. Il faut, à mon avis, pour que ça ait réellement un poids, il faut que ça mobilise l'ensemble de la population, parce que en fait, c'est une liberté fondamentale pour tout le monde.
Et pas que la banlieue, donc.
Oui, exactement, en plus. Et pareil, sur l'ensemble des territoires. Oui, mais c'est prévu à Paris, d'ailleurs.
Pourquoi les banlieues ? Parce qu'il y a eu, il n'y a pas très longtemps, je ne saurais pas vous donner de date, etc., mais des agressions homophobes, en particulier en banlieue parisienne. Il y en a eu récemment, et il y en a probablement encore.
Il y en a à Paris aussi.
Oui, oui, et puis même peut-être
en province,
en
Outre-mer, il y en a partout.
Oui, il y en a partout, mais de manière plus ou moins aiguë. Mais je pense qu'effectivement, c'est un travail quotidien. Et ce qu'on appelle la marche des fiertés, moi je trouve ça bien, parce que ce qui est vraiment important, c'est qu'on ne puisse ne pas avoir honte de ce que l'on est. C'est ce qui est terrible, en fait, c'est ça. C'est la honte, c'est de se cacher, c'est d'avoir peur d'aller à l'école, donc on a un regard un peu...
La visibilité est essentielle.
Voilà, exactement. Non, la visibilité, c'est la liberté d'afficher son homosexualité tranquillement, sans qu'il y ait matière à conflit, etc. Mais c'est un travail de longue haleine. Il ne faut pas s'étonner de ce que simplement une loi puisse transformer les mentalités. C'est long, les mentalités, bien
François
sûr.
François Ernenwein.
Moi, je me réjouis quand partout en France, des gens s'élèvent contre les stigmatisations, les discriminations.
Quelles qu'elles soient, d'ailleurs.
Et la mise à l'écart, ça me paraît assez essentiel. Et puis, deuxième aspect des choses, et ça a été dit tout à l'heure, les libertés sont des conquêtes successives à travers l'histoire. Mais c'est pas parce que le législateur a établi un cadre que le droit s'applique mécaniquement. C'est nous, comme citoyens, qui devons nous battre pour la défense de nos libertés, intervenir dans le débat public, quand elles sont menacées.
Mais qu'est-ce qu'il faut dire qu'on dit aux homophobes,
quel que soit nos.
On leur dit quoi? Ça
mais il y a un délit pas, déjà, ça dépend. Si on s'exprime comme homophobe, il y a un délit dans le. Dans
non,
le
mais il y a déjà la loi. Déjà.
Bien sûr,
ça, c'est
déjà
la loi. C'est très important. On commence par la loi.
Pour changer les mentalités, on dit quoi? On dit, mais ça ne vous regarde pas.
Je crois que c'est une question d'éducation. Ça se passe à l'école, ça se passe dans la tolérance, ça se passe dans des choses qui sont inculquées depuis la petite enfance. Et je pense que ça, c'est important de l'intégrer dans le processus d'éducation.
C'est le travail des familles, des parents, déjà. Effectivement, à l'école, on dit parfois, mais c'est le travail des familles. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait des images comme ça, de manifestations, pour que ça puisse frapper l'esprit des parents qui ont des enfants.
On en discute après. Mais François,
il faut être sensible au fait que dans le débat public, dans la société en France, le discours et les stigmatisations ne cessent de se durcir. On prend les actes les uns après les autres, antisémites, homophobes, etc. On voit bien que malgré le cadre législatif, l'expression et l'hystérisation sur les réseaux sociaux produit des discours de haine, de discrimination, qui sont intolérables dans une démocratie apaisée comme devrait l'être la France.
Alors, selon un rapport dévoilé en mai dernier par SOS Homophobie, les agressions physiques envers les personnes LGBT, lesbiennes, gays, bi, trans, ont atteint en France un niveau inégalé. 2018, 231 agressions physiques recensées. Est-ce qu'il y en a plus parce que la parole se libère et qu'on en parle peut-être plus facilement?
C'est souvent l'un des effets paradoxaux lorsqu'une nouvelle législation se met en place. Ça mécaniquement produit plus de.
Et puis je crois qu'il y a beaucoup de colère.
Mais je suis pas sûr que ce soit que ça.
Et quand on voit que c'est des jeunes, par exemple, ce qui s'est passé en Angleterre, c'est deux femmes qui ont été agressées
par des gamins.
Donc il y a c'est de, qui ont entre 15 ans et 18 ans. Ça veut dire qu'ils sont en pleine floraison d'adolescence avec tout ce que ça comporte sur le plan sexuel, etc. Et que leurs fantasmes ne sont pas alimentés par une certaine vision des choses. C'est pour ça que c'est important. L'éducation, la famille, l'école, qu'il y ait que la tolérance fasse partie des outils.
C'est encore très présent dans certains pays du monde, dans certains autres pays, bien sûr, on devrait être un modèle. Mais regardez, aux États-Unis, il y a eu une fusillade l'année dernière, il y a deux ans, une fusillade dans une boîte de nuit où il y avait essentiellement des homosexuels.
Aussi,
donc
oui.
Ça, c'est extrêmement grave. Oui. Je suis d'accord avec les réseaux sociaux qui sont un déversoir de haine dans tous les domaines de tous ceux qui, effectivement, ont des frustrations directes, probablement, du malheur dans leur vie ou je ne sais quoi.
La nature même de l'expression qui produit cette hystérisation.
Les réseaux sociaux, c'est vraiment le.
Parce qu'il y a une inflation du diable, dans les réseaux sociaux qui est terrible. Terrible, bien sûr.
On est bien enfermé chez soi et on fait son petit truc, on n'est pas
et puis on peut être anonyme.
On n'est pas à la face du monde.
On est anonyme, c'est tout.
Voilà pour cette. Pas tous. Vous ne l'êtes pas sur les réseaux sociaux anonymes, Hélène?
Non, pas tous, mais sur beaucoup, presque. Quand on veut être anonyme, on est anonyme très facilement.
Oui, on peut, évidemment. C'était donc cette première marche des fiertés aujourd'hui en Seine-Saint-Denis. Il est 20h50, le rappel de l'info, Thomas Bénèche.
Un homme activement recherché ce soir par les forces de l'ordre à Lorient avec sa voiture en fin d'après-midi. Il fauche deux enfants à la sortie d'un rond-point. L'un est mort, l'autre en urgence absolue. Il était poursuivi, ce chauffard, par les gendarmes. Il a quitté son véhicule et pris la fuite à pied. Une centaine de tombes profanées la nuit dernière à Toulouse, cela dans le plus ancien cimetière de la ville rose, celui de Tercabade, quartier Jolimont. L'une des tombes a été saccagée. On parle aussi sur place de crucifix, de jardinières et de fleurs abîmées. La mairie de Toulouse a décidé de porter plainte. Parce qu'il craint un nouveau duel Macron-Le Pen lors de la présidentielle 2022, l'eurodéputé Raphaël Glucksmann appelle sur France 3 à l'union de la gauche pour éviter des candidatures dispersées. L'ancien tête de liste PS Place Publique aux Européennes invite d'ailleurs l'écologiste Yannick Jadot à porter ce discours. Au moins 4 morts aujourd'hui au Soudan, cela au premier jour d'un mouvement de désobéissance civile lancé par les opposants au pouvoir entre les mains de l'armée. Des heurts aujourd'hui entre manifestants et forces de l'ordre à Hong Kong. Plus d'un million de personnes, selon un organisateur, ont défilé ce dimanche pour dire non à un projet de loi du gouvernement local. Il vise à permettre l'extradition de suspects vers la Chine pour y être jugés, ce qui fait craindre des procès opaques et sous influence politique.
France Info. France Info, les informés, Noé Da Silva.
À la suite des informés jusqu'à 21h et à 20h50, c'est le moment de passer aux cartes blanches du dimanche soir. Nos informés sont venus avec leur petite idée. Nous pourrons tous en débattre et réagir, bien évidemment. On commence avec vous, David Boeri, et la NASA. Ah. Vous nous emmenez donc très très loin nos préoccupations quotidiennes.
Oui, parce que c'est devenu la spécialité dans les informés de vous parler à chaque fois d'espace. Il se trouve qu'il y a eu une annonce assez surprenante cette semaine de la NASA qui vous a peut-être échappé. Qui annonce qu'à partir de 2020, la station spatiale internationale va être ouverte aux touristes privés. Ça veut dire concrètement que vous et moi, à partir de 2020, on va pouvoir s'offrir un voyage dans la station spatiale.
Moi, c'est que c'est pas cher.
Alors, non, c'est pour ça que je vous dis, il faut tout de suite commencer à économiser très très vite beaucoup d'argent, parce que le vol aller-retour, c'est quand même, faut compter 51 millions d'euros. Ça, c'est juste le vol.
Mais non.
C'est juste le vol pour aller dans la station et revenir. Et ensuite, c'est facturé à minima, on va dire, 31 000 euros par nuit, par jour.
Ouais.
Donc par 24 heures à l'intérieur de la station. Et sachant que c'est limité, de toute façon à 30 jours. Voilà. Mais donc au-delà, donc très concrètement, ça veut dire que c'est surtout pour des grosses entreprises privées qui souhaitent mener des expériences éventuellement dans la station spatiale internationale, voire des riches milliardaires qui souhaitent partir dans l'espace. Mais en réalité, au-delà de ça, c'est une vraie privatisation du domaine spatial. C'est ça que confirme aujourd'hui la NASA. On savait déjà que les budgets avaient beaucoup reculé. Et à 50 ans, alors qu'on fête les 50 ans du débarquement de l'homme sur la Lune, ça y est, le spatial est devenu privé.
Marie-Josée Ali, vous nous ramenez les pieds sur terre.
Tout à fait. Non, mais j'avais envie de vous dire, autant aller à Asgardia. Vous connaissez l'histoire d'Asgardia?
Non. Non,
mais ça sera pour la prochaine fois.
D'accord.
Quel suspense,
c'est un pays
c'est
imaginaire.
Moins cher.
C'est non, c'est une nation imaginaire qui a été. C'est un Russe qui a mis ça au point, un milliardaire russe, et qui permet aux gens d'avoir la nationalité asgardienne. Tous ceux qui trouvent que la Terre n'est pas. Asgardia. C'est un peu ça. Alors, mon coup de cœur, et je vais regarder mes notes parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est l'émission d'hier soir. On n'est pas couché. C'est rare. Vous savez, dans ces temps de mémoire, il semble qu'il y ait beaucoup d'appétit de la population française pour tout ce qui est mémoriel. Et c'est la première fois que cette émission a accueilli longuement une partie de l'histoire de France, celle des esclaves sur les plantations d'outre-mer, dont la mémoire est honorée désormais chaque 23 mai de façon officielle. Alors, pour rappel, il a fallu 20 ans de lutte pour obtenir une décision gouvernementale sur cette question. La première étape, vous vous en souvenez, ça a été la loi Taubira, qui a fait de la France le seul pays au monde qui a légiféré sur le crime contre l'humanité qu'est l'esclavage. La deuxième étape est aussi importante que la commémoration de l'abolition qui est consacré le 10 mai, c'est l'abolition. C'est pas. Alors le 23 honore les ancêtres esclaves et prépare le mur des noms aux Tuileries. Alors rapidement, bien sûr, les trois personnalités qui étaient présentes sur le plateau y étaient, avaient été invitées dans le cadre d'un droit de réponse, dans le cadre de la polémique avec
Christine Angot. Plutôt avec Christine
Angot,
exactement.
On va pas revenir là-dessus. Alors on va retenir les regrets.
Quoi,
on va les regrets de Christine.
Il faut qu'elle puisse s'exprimer.
Et on retiendra surtout que à travers les questions qui ont été posées, on a un moment d'émission qui a permis de faire, puisqu'on parlait d'espace, un grand pas dans la compréhension de nos humanités. Donc la télévision, quand ça sert à ça, j'aime bien.
Voilà, François Ehrenwein, une messe.
Ah oui, la messe en 6, c'était le 24 mai à la Philharmonie de Paris, avec Raphaël Pichon et l'ensemble Pygmalion. C'était un grand moment de bonheur. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur le site de la Philharmonie de Paris, l'intégralité de ce concert. Alors, c'est très émouvant parce que Bach a mis 24 ans pour composer cette messe en 6. Il ne l'a jamais entendue dans son intégralité. Et pourtant, c'est une œuvre magnifique et musicalement parfaitement cohérente.
La messe en 6 de Bach à la Philharmonie de Paris. Hélène Pilichowski.
Alors moi, c'est parce que j'ai reçu une petite invitation comme ça, un message de Christophe Barbier, parce que il va lire au Panthéon mardi soir, il va lire les questions sur l'encyclopédie de Voltaire, enfin en partie, il y a une sélection des textes, etc. Oui. Et que Christophe Barbier, on le connaît parce qu'il intervient à la télévision, mais il a une diction formidable, parce qu'il fait beaucoup, beaucoup de théâtre, on le sent d'ailleurs, il est très entraîné, lui il bafouille pas quand il est sur un plateau télévisé.
Personne ici autour de la table ne bafouille.
J'avais été l'écouter quand il a écrit le dictionnaire amoureux du théâtre, et il avait mis ça en scène tout seul au petit théâtre de poche de Montparnasse, où pendant une heure et demie il faisait, en fait, il racontait l'histoire du théâtre avec amour. C'était absolument extraordinaire, et je ne doute pas que ça soit très intéressant. Et c'est moins cher qu'un tour dans l'espace.
Oui,
c'est gratuit,
c'est facile.
Donc c'est au Panthéon, là où repose, comme vous savez, là où repose Voltaire, c'est au Panthéon, vous pouvez y aller gratuitement mardi soir.
Oui. À la une de la Croix demain, il y en a pas, parce que c'est lundi de Pentecôte.
Lundi de Pentecôte,
repos.
Mais
c'est le seul jour.
Mais
pas pour tout
on prépare un très beau numéro mardi autour du Brexit, enfin les conséquences de ce qui est en train de se passer en Grande-Bretagne, donc on suit de près l'actualité.
Mais on trouve toujours dans les kiosques...
Le numéro du week-end consacré aux catholiques et la crise que traverse à travers les différentes affaires de pédophilie, l'Église en tous les cas. Mais on voit aussi que ça mobilise, ça conduit à des réflexions, notamment sur les effets pervers, on va dire, du cléricalisme.
Merci François, la une de La Croix, donc qui est toujours en kiosque. L'invité de 8h30 demain sur France Info, Geoffroy Didier, du Parti Les Républicains, eurodéputé et vice-président de la région Île-de-France, qui est présidé par Valérie Pécresse. Merci à Hélène Pilichowski, David Boëry, François Hernenwein et Marie-Josée Ali. C'était les informés de ce dimanche soir. Je vous souhaite une très bonne soirée, évidemment, sur France Info, demain à 20h, Jean-François Aquili. Bonne soirée.